Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Philippe Chalmin pour la parution de son dernier essai paru chez Bourin, éditeur, 118 pages, 16 euros. Le siècle de Jules. Le siècle de Jules avec un sous-titre qui éclaire sur l'objectif de cette parution, le 21e siècle raconté à mon petit-fils. Philippe Chalmin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps, que je sais très précieux par ces temps de crise, pour venir commenter votre ouvrage à Canal Académie. On connaissait déjà nombre de vos talents, éminent professeur d'université, directeur de master...
Affaires internationales.
Tout à fait sur le sujet. Donc à Dauphine, vous êtes agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Et vous êtes considéré comme l'un des grands experts mondiaux des matières premières et la parution que vous dirigez, Cyclope, et reste la grande référence sur le sujet. Vous êtes par ailleurs un habitué des grands médias et vos chroniques sont particulièrement recherchées. Alors on croyait vous connaître complètement, mais en fait on découvre avec la parution de ce nouvel ouvrage la face cachée, celle de l'homme et tout particulièrement du grand-père.
Oui, effectivement, puisque Jules existe, il a maintenant 14 mois, puisqu'il est né le 28 février 2009, et c'est mon premier petit-fils, et en tenant ce petit bout d'homme dans mes bras, en la maternité de Pau dans le Béarn, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher, alors ça, c'est l'économiste qui ressort, de me demander ce qu'allait être sa vie, puisque né en 2009, il a, puisqu'il s'appelle Jules, 78 ans d'espérance de vie. C'eût été Julie, il aurait eu 84 ans d'espérance de vie. Donc, des inégalités fondamentales à la naissance. Inégalités fondamentales, il serait né au Sénégal ou au Burkina Faso, il aurait 30 ans d'espérance de vie de moins. Mais Jules va donc connaître tout le 21e siècle. Et c'est un peu les grandes questions qui se posent au 21e siècle que je voulais, dans ce petit essai, aborder et corner.
Vous le faites en traitant plusieurs chapitres, enfin, qui sont les grands axes de votre réflexion. On retrouve bien entendu vos compétences multiples sur ces sujets. Le premier point que vous considérez comme le grand défi, c'est de dire que Jules naît dans un monde fini et, entre guillemets, plein d'hommes.
Oui, parce que... Et Jules va connaître même un moment, je dirais, historique dans la vie de l'humanité, dans la longue histoire de l'humanité. C'est que, très probablement, quand Jules aura un peu plus que l'âge de son grand-père aujourd'hui, la population du monde se sera à peu près stabilisée. C'est à peu près un scénario sur lequel tous les démographes sont d'accord. Ce moment où la natalité équilibrera juste la mortalité, y compris dans les zones les plus en retard du monde, notamment l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Et à ce moment-là, on ne va pas chipouiller à quelques centaines de millions d'hommes près, ils seront quelque part entre 9,5 et 10 milliards d'hommes. Donc, la Terre sera pleine d'hommes et, bien entendu, la première question que l'on doit se poser, surtout en des temps marqués par, un an avant la naissance de Jules, la flambée des prix des matières premières, du pétrole, etc., les inquiétudes que nous avons sur le carbone, c'est de se dire, la Terre sera pleine d'hommes, mais la Terre sera-t-elle suffisante? N'aurons-nous suffisamment de ressources pour offrir à ces 10 milliards d'hommes, plus que le gîte et le couvert, une vie décente et une espérance?
Mais alors, votre vision justement sur ce sujet, que vous connaissez particulièrement, je rappelle que vous publiez Cyclope, donc l'analyse des marchés mondiaux de matières premières. Votre vision, vous, c'est quoi, justement? Est-ce qu'on arrivera à ajuster ces deux défis?
Ma vision est qu'ils y arriveront. Et je me bats contre tous les Cassandres, et Dieu sait si nous en avons aujourd'hui, apôtres de la décroissance et autres, qui disent que notre Terre est finie et qu'au contraire, la seule solution pour s'en sortir, par exemple, c'est de réduire drastiquement la natalité, que l'homme serait un obstacle. Non, ça n'est pas vrai. Tout simplement parce que nous raisonnons beaucoup trop avec l'œil technologique d'aujourd'hui. Au fond, je ne sais pas ce que sera demain. le cocktail énergétique, ce que sera demain le mix technologique que pourra utiliser Jules. Paradoxalement, le défi le plus important m'apparaît être, encore et toujours, le défi alimentaire. Parce que, un an avant la naissance de Jules, on se souvient qu'il y a eu des émeutes de la faim. Lorsque Jules est né, nous étions 6,5 milliards, et il y avait quand même 1 milliard d'êtres humains, non pas qui souffraient de la faim, mais qui souffraient de pauvreté alimentaire. Et donc, si j'imagine un monde de 10 milliards d'êtres humains où il n'y aurait plus cette pauvreté alimentaire, bien, il faut grosso modo que je sois à peu près capable, qu'il soit à peu près capable, de multiplier par 2 la production agricole de la planète pour satisfaire nos seuls besoins alimentaires. Je ne vous parle pas d'énergie et autre chose de ce genre. Multiplier par 2 la production agricole de la planète, sachant que nous avons devant nous quand même quelques changements climatiques, sachant que nous avons aussi des problèmes d'accession et de partage de l'eau, sachant que nous avons des sols qui s'appauvrissent quand même un petit peu, sachant que nous ne serons pas capables, ils ne seront pas capables d'augmenter très considérablement la surface agricole utile, cela veut dire qu'il va falloir, à l'échelle de la planète, multiplier les rendements agricoles par 2. Et là, je vous parle de 10 milliards d'êtres humains qui ne vivraient pas comme des obèses américains, ni comme des végétariens indiens. Ouais. Un bon équilibre à la française, disons. Bon, eh bien, c'est probablement le défi le plus important, celui qui devrait, normalement, mobiliser le plus d'énergie. Je dis à un moment, au fond, le plus beau métier pour Jules, ce serait peut-être encore d'être agronome. Et je vous livre quand même ce paradoxe du monde dans lequel est né Jules, 1 milliard d'êtres humains souffrant de pauvreté alimentaire, et au même moment, cette même année-là, 1 milliard de téléphones portables en Chine. Les deux chiffres n'ont rien à voir, c'est totalement ridicule ce que je dis là, mais simplement, cela montre que l'homme, qui a tellement bien maîtrisé, qu'il a l'impression de tout maîtriser, du temps, de l'espace, etc., est encore confronté au même problème qui était le sien lorsque l'Europe était trop pleine d'hommes en 1346, au moment de la Grande Peste Noire.
Oui, alors, la peste, elle est peut-être aussi devant nous et sur l'Europe. En parlant de politique alimentaire, vous me faites une transition donnée pour parler de l'Europe. Je lis ce que vous écrivez d'une plume très alerte, très aérée. Je rappelle que vous êtes un auteur confirmé de longue date. Vous dites « Le défi européen sera pour un jeune Français comme Jules, en 2009 », d'affronter non pas une page vierge comme en 1958, mais un monceau de textes complexes et souvent contradictoires dont il devra, d'une manière ou d'une autre, faire table rase. Sa génération pourra-t-elle y parvenir? Ce n'est pas certain, et en tout cas l'Europe, qui en 2050 compte à 27 un peu plus de 700 millions d'habitants, la moitié de la Chine et 7% de la population mondiale, ne pèsera pas plus guère dans le concert mondial. Son rôle à l'avenir pourrait être comparable à celui de la Suisse et du Vatican durant la Première Guerre mondiale, un havre de paix, mais aussi d'égoïsme, un magistère moral et de belles paroles loin du fracas des canons. C'est très bien résumé. Est-ce que ça modifie? Est-ce que l'actualité, le plan de soutien,
non,
etc.
Non, malheureusement. Alors, elle le modifie un petit peu. C'est vrai que l'année de la naissance de Jules a été quand même, pour l'Europe, une annus horribilis. Dans la mesure où nous avons assisté à des élections européennes à peu près lamentables, où on a envoyé à Bruxelles ou Strasbourg, toutes les ratées des politiques nationales. Ça a été l'année de la ratification du traité de Lisbonne qui a été totalement lamentable. Ça a été cette élection de M. Van Rompuy, très brave homme par ailleurs, mais qui a montré d'ailleurs ces derniers jours toutes ses limites, etc. Donc on a bien vu que Jules est né à la fin d'une grande période européenne. La seule chose positive, c'est que Jules est l'enfant de la génération d'Erasmus. Les parents de Jules, ma fille et mon gendre, ont été des Erasmus. Donc pour eux, l'Europe est une évidence. Et j'espère qu'elle le sera pour Jules. Simplement, il était clair quand j'écrivais ce petit essai que pour moi, l'Europe était en train de se défaire, qu'elle était au milieu du gué et que manifestement, la deuxième partie, elle n'arriverait pas à la faire. Alors, la crise actuelle a quand même provoqué une prise de conscience. Il était clair que nous avions fait l'euro, mais nous avions fait l'euro sans lui donner quelque instrument de gouvernance que ce soit. La crise actuelle et la décision le week-end dernier de cette colossale facilité d'emprunt à hauteur, alors pour les Européens, de 500 milliards d'euros, 750 milliards avec l'abondement du FMI, qui à mon sens n'était pas nécessaire, mais ça c'est une autre question, bien c'est quand même un pas en avant. On a un petit peu avancer, au moins pour la zone euro, dans le sens d'une certaine forme de gouvernance. Il faudra aller plus loin. Là, c'est un Européen convaincu qui parle. Il faudra aller plus loin dans le sens d'abandon de souveraineté, bien entendu, de manière à se bâtir une Europe fiscale, une Europe budgétaire, etc. Mais quelque part, j'en sors un tout petit peu optimiste, même si j'ai bien conscience que dans tous les défis du siècle de Jules sont bien entendu des défis planétaires. Comme je le disais, l'Europe, elle ne comptera plus beaucoup. Elle ne compte plus déjà beaucoup, y compris dans l'univers de la connaissance. Mais si on veut éviter qu'elle devienne une sorte de Suisse matinée de Disneyland pour touristes chinois ou américains, eh bien, il y a une page véritablement à réécrire et ce sera à la génération de Jules. Alors Jules, il faudra, quand Jules arrivera à l'âge de raison et surtout à l'âge où il pourra s'exprimer, la messe aura peut-être été déjà largement dite. Donc là, je parle aussi à tous ceux qui, et à la génération des parents de Jules, qui eux peuvent être directement maintenant des acteurs.
Oui, donc vous corrigez un tout petit peu ce que vous écriviez à cet instant, à la page 59. Espérons que Jules et ses amis infirmeront cette vision bien pessimiste d'un jeune grand-père dont le seul tort a été de trop croire à l'Europe et qui, dans les années à venir, va se battre pour essayer de sauver au moins un peu de la politique agricole commune.
Alors, la politique agricole commune, ce sera effectivement un combat. Elle n'aura plus de toute manière le même rôle fédérateur qui fut le sien par le passé. Elle reste, à mon sens, tout à fait importante. Mais il est clair que le grand chantier à venir, c'est le chantier de la gouvernance européenne. Et au fond, la crise, vous savez, je ne vous ferai pas le coup de l'idéogramme chinois qui veut dire crise et opportunité, cette crise, elle est aussi une extraordinaire opportunité.
Tout à fait. Alors ça, c'est quand même le côté extrêmement positif de la crise. Il y a toujours un côté pile et un côté face. Donc, Jules sera peut-être un vrai Européen au sens de la citoyenneté.
Il ne pourra pas en être, me semble-t-il, autrement. Jules, en plus, a un petit peu le sang basque, donc il devra essayer, et là c'est toute la question régionale d'ailleurs qui peut se poser aussi, il devra gérer au fond des identités différentes, mais qui doivent être complémentaires et ne pas s'opposer, basque, français, européen, c'est me semble-t-il un joli programme.
Alors France, Europe, monde, dans quel ordre mondial? Montée en puissance du G2, la Chine, Amérique, oui ou non? Le modèle référent démocratique a, semble-t-il, de toute façon triomphé ou va triompher? Mais avec quels équilibres multipolaires, etc.
Alors, c'est une des grandes questions. Aujourd'hui, nous vivons, et je dirais que grossièrement, le monde a vécu entre 1648 et 1990, grossièrement, sur le principe de l'équilibre des pouvoirs. 1648, c'était le traité de Westphalie, et on a toujours vécu sur le principe de l'équilibre des pouvoirs, et quand une tête dépassait, les autres têtes se liguaient pour la ramener dans le rang. Depuis 1990, nous ne vivons plus qu'un seul impérium, qui est l'impérium américain, ce qui est peut-être justifié ou non sur le plan militaire et stratégique, ce qui l'est quand même relativement, je dirais, dans le modèle démocratique américain, qui, je pense, sera quand même le grand modèle du XXIe siècle. Alors maintenant, on voit bien les limites aussi de cet impérium américain. Monsieur Obama, le week-end dernier, a donné quelques coups de téléphone en Europe. Donc ce qui prouve bien qu'il s'en souciait, ce que son prédécesseur n'aurait peut-être pas fait. Mais on voit bien les bourbiers afghans et irakiens. On voit bien que, alors à la fois l'équilibre géopolitique, mais aussi l'équilibre économique de la planète, réclame un rééquilibrage. Ce rééquilibrage peut-il venir de Chine? Et au-delà, je dirais, de la certitude américaine, ma grande interrogation, c'est beaucoup plus une interrogation chinoise. Comment la Chine va-t-elle gérer sa transition? Elle qui, au fond, n'a jamais été vraiment une démocratie, il faut le rappeler. Ils sont passés d'un système admirable qui était le système mandarinal, enfin le système impérial mandarinal, à un système dans lequel l'empereur est remplacé par le parti, mais qui reste un système lui aussi totalement mandarinal, probablement un tout petit peu plus corrompu que ne l'était le système impérial. Peuvent-ils aller vers un système démocratique? Peuvent-ils finalement aller vers le modèle de la grande démocratie anglo-saxonne qu'est l'Inde? Il faut le rappeler, c'est la question majeure. Et puis d'autre part, la Chine qui pour l'instant joue un rôle un petit peu de passager clandestin, c'est-à-dire prenant le beurre et quand même beaucoup d'argent du beurre, dans le sens où, pour l'instant, le yuan n'est pas convertible, ils ne jouent pas leur rôle sur la scène monétaire mondiale, ils ne se sont pas sentis totalement concernés, comment vont-ils assurer une certaine forme de rééquilibrage? La première question qui va se poser, et elle va se poser très rapidement, à la lumière d'ailleurs des événements du week-end dernier, il est évident qu'il va nous falloir rebâtir un système monétaire international. La question de l'euro, elle pose la vraie question qui est celle d'un étalon monétaire mondial. Est-ce que cela peut être le dollar ? Ça n'est pas souhaitable. Est-ce qu'on doit aller vers l'équilibre entre plusieurs monnaies ? Le dollar, l'euro, bien faible aujourd'hui, mais qui a quand même quelque sens. Et bien entendu, le yuan. Et puis, la dernière question, et ça, Jules vivra peut-être une adolescence un petit peu orageuse, car à ce moment-là, peut-être avant d'ailleurs, le monde connaîtra très probablement une crise d'ajustement chinoise. Ce que connaît la Chine, Jules est né. Alors Jules, paradoxalement, né en février 2009, son grand-père lui dira plus tard, « Mon petit, tu es né le jour le plus bas. Tu es né le jour le plus bas au niveau des marchés, au niveau des marchés boursiers, au niveau des prix des matières premières, etc. » Et nous étions, souvenez-vous, en février dernier, on ouvrait son journal, on se demandait quelle allait être la catastrophe nouvelle qui allait nous tomber dessus. Depuis, le monde est reparti, mais il est clair que nous vivons plus que jamais avec une épée de Damoclès, qui est l'épée de Damoclès chinoise. La Chine fait 12% de croissance au premier trimestre 2010. Tout ceci est-il bien raisonnable ? Un jour, nous aurons, et un jour, nous aurons une crise chinoise, un petit peu sur le modèle, souvenez-vous, de la crise asiatique de 1997, c'est-à-dire une crise d'ajustement, une crise nécessaire par tous les déséquilibres aujourd'hui que provoque la croissance chinoise. J'espère en ce domaine, alors là, me tromper, et je pense que, de toute manière, Jules, quand il pourra lire, rigolera bien en lisant les rêveries de son grand-père. Tout exercice de prévision...
Est un mensonge, dit-on.
Disons que c'est un exercice à la fois prétentieux et ridicule. Prétentieux parce que vous ne pouvez pas à un moment prendre l'ensemble des problématiques et les brasser de la manière la plus intelligente qui soit. Ridicule au sens du ridicule en philosophie, où vous mélangez finalement des analyses d'ordre différents, puisque je me lance à faire de la géopolitique, de l'économie, et même dernier chapitre, un peu de spirituel.
Tout à fait, de philosophie, et c'est justement, vous me tendez la perche pour qu'on en vienne à peut-être ce qui est l'essentiel dans cet ouvrage absolument remarquable, qui est la question du sens. Est-ce que Jules sera heureux ? Quel est le bonheur pour un petit Jules qui vient de naître ? Que va-t-il trouver sur ce chemin du bonheur, sur cette quête de sens ?
Alors, c'est une question qui, à mon sens, est fondamentale. Alors, je rappelle que pour nombre de petits camarades de Jules, nés au même moment que lui, la quête du bonheur matériel aura toujours un sens. Jules pourra s'offrir le luxe de regarder d'un peu de haut les biens matériels parce que, a priori, en tant que petit Français, il n'en manquera pas. Il faut bien rappeler que la quête du bonheur matériel restera quand même sur ce siècle un des objectifs d'une bonne moitié de l'humanité quand même. Mais pour le reste, Jules naît en un moment où nous avons... Alors d'une part, Jules naît en un moment où il n'y a plus de grandes idéologies porteuses. Pour le grand-père, l'arrière-grand-père de Jules, il pouvait y avoir de grands choix idéologiques. On pouvait être gauchiste quand nous étions jeunes, nous nous baladions avec des petits livres rouges, etc. Tout ceci est bien entendu et depuis longtemps terminé. Mais c'est aussi en quoi est-ce que Jules va croire ? Comment vont évoluer les grandes spiritualités de la planète ? Est-ce que nous allons aller vers une sorte de salmigondi mystico-new age dans lequel en fait la part du sens, la part du spirituel régresserait comme c'est le cas dans nos grands pays développés ? Comme c'est malheureusement aussi un peu le cas en Chine, il faut bien le souligner, ou bien est-ce que nous assisterons à une renaissance religieuse, non pas celle que l'on voit aujourd'hui, celle des extrémismes, mais une recherche religieuse qui fasse intelligemment coexister foi et raison. Et cette interrogation religieuse, elle n'est pas superflue. Faut-il rappeler qu'au moment où est né Jules, toutes les guerres en ce bas monde avaient été soit directement des guerres de religion ou avaient à leur origine des bases religieuses. Et donc, faire de la prospective religieuse, vous allez me dire, mais il est totalement fou, alors là, il est vraiment ridicule. Et pourtant, c'est là l'essentiel, puisque ce dont je rêve un petit peu, c'est que à la fin de ce siècle, eh bien, Jules soit arrivé une sorte d'idéal hegélien qui est celui de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est ce que vous avez dans les contes de fées. Et ceci, mes enfants, est la fin de l'histoire, puisqu'ils furent heureux et que les peuples heureux n'ont pas d'histoire.
C'est très, très beau. Je crois qu'on va rester sur ce dernier mot. en vous remerciant et en rappelant que votre parution « Le siècle de Jules » avec un sous-titre « Le 21e siècle raconté à mon petit-fils » est paru chez Bourrin, qu'il a 118 pages et pour 16 euros. C'était donc les convictions du professeur Philippe Chalmin qui dépassait les compétences de l'expert pour aller vers la sensibilité de l'homme avec un talent d'écriture qu'on lui reconnaît de l'émotion, de la réflexion, des convictions, du bonheur. Merci Philippe Chalmin.
Merci beaucoup.